Grand Angle.
Grand Angle sur Radio Orient. Le coût de la vie étudiante continue d'augmenter, plus de 1,66% en un an et plus de 35% depuis 2017 et le premier quinquennat d'Emmanuel Macron selon l'UNEF. Le syndicat estime que le reste à charge mensuel atteint désormais 1300 euros sous l'effet notamment de la hausse des loyers, des transports et de l'alimentation. Pour nous en parler, Clara Privé, trésorière de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France. Bonjour.
Bonjour.
Le coût de la vie étudiante, on l'a dit, a encore augmenté de 1,66% en un an. Concrètement, que représente cette hausse pour un étudiant?
C'est déjà 74 euros supplémentaires de dépenses par mois. Et c'est surtout des postes de dépenses à la hausse, notamment, comme vous l'avez dit, le logement et les transports. Le logement étant le premier poste de dépenses des étudiants. Et concrètement, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait de faire des choix de manière constante entre se nourrir et acheter des protections périodiques, par exemple, entre se nourrir et se soigner, entre marcher, prendre les transports ou se nourrir. Donc en fait, aujourd'hui, la vie des étudiants, c'est faire constamment des choix entre telle ou telle dépense à cause de la précarité qui évolue et qui augmente encore cette année.
Et selon votre enquête, les étudiants doivent désormais trouver en moyenne 1300 euros chaque mois pour couvrir leurs dépenses. Après la déduction des aides, comment est-ce qu'ils font face à ce reste à charge qui est devenu élevé?
Le travail, hein, le salariat étudiant, aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près un étudiant sur deux qui travaille et ce tout au long de l'année. Et en fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, les étudiants, pour la plupart, doivent travailler. Le chiffre monte à 80% si on prend également le travail estival. C'est des chiffres qui sont énormes, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. Donc oui, cette précarité, elle a un impact direct sur la scolarité des étudiants et sur la réussite.
Et depuis 2017, le coût de la vie étudiante a progressé de plus de 35%. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette hausse aussi importante? Est-ce que vous pointez la responsabilité d'Emmanuel Macron, notamment?
Bien sûr, on le sait, c'est le résultat des politiques antisociales de Macron qui amène ce chiffre. C'est un chiffre qui est vertigineux et qui prouve qu'une seule chose, hein, qu'il n'y a pas eu de vraie politique d'investissement de la jeunesse. Donc ça va être le dégel des loyers CROUS, ça va être l'augmentation des frais d'inscription, ça va être, pour rappel, la première mesure à destination des étudiants d'Emmanuel Macron, c'est quand même en 2017 la baisse des APL. Donc il y a un marqueur politique de précarisation de la jeunesse depuis 2017 et un continuum là-dessus. Et donc aujourd'hui, on le voit, finalement, le coup de butoir de ces politiques, c'est les deux rapports qui sont sortis récemment. Le premier qui préconise de multiplier par 5 les frais d'inscription, ce qui est absolument énorme. Et le deuxième qui est de familiariser les APL et qui ferait perdre les APL à quasiment 200 000 étudiants sur le rapport. Donc on voit bien que précariser les étudiants, c'est un objectif politique. Presque d'Emmanuel Macron.
On parlait du logement, ça reste le premier poste de dépense avec un loyer moyen qui est environ de 627 euros dans le privé. Vous réclamez quoi pour faire baisser ces loyers?
Alors, il y a deux choses. Hein. Sur la question du privé, la seule solution, c'est l'encadrement des loyers. On le sait, on le voit, ça marche. Et évidemment, embaucher des personnes pour vérifier que cet encadrement des loyers est bien respecté. Et la deuxième solution, c'est la construction de logements CROUS. Aujourd'hui, le CROUS, c'est le seul service public à destination exclusivement des étudiants qui sait faire du logement étudiant et qui sait faire du logement étudiant à bas prix. Donc aujourd'hui, il faut construire des logements, 150 à 160 000 de manière urgente. Et il faut absolument permettre aux étudiants de se loger dans les CROUS et de ne pas être finalement lâchés sur le marché privé où on voit que les évolutions de loyers sont absolument énormes.
Et justement, sur ces logements CROUS, on a seulement 15,5% des logements étudiants qui étaient promis depuis 2017 qui ont été construits. Comment est-ce qu'on l'explique, ce retard?
Un manque de volonté politique. On voit bien que l'argent, il est parti ailleurs. 211 milliards d'aides aux entreprises, selon un rapport du Sénat, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'argent est parti ailleurs. Et aujourd'hui, la jeunesse n'a pas été une priorité politique du mandat d'Emmanuel Macron et ses différents gouvernements. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec le chiffre absolument ridicule de seulement 15% des logements sur les 60 000 promis en 2017 qui sont construits. Et en fait, ça montre bien qu'on laisse complètement les étudiants errer, le salariat, le manque de logements, etc. Il n'y a pas de politique sociale en faveur de la jeunesse. Et donc forcément, ça amène des situations où vous avez aujourd'hui 10% des étudiants qui n'ont pas de logement, qui sont sans domicile fixe. Et ça a un vrai impact sur, évidemment, les études également.
Il y a aussi l'alimentation qui reste un sujet majeur. L'alimentation qui continue d'augmenter, notamment les produits frais. Tout à l'heure, vous nous disiez que des étudiants étaient contraints de sauter des repas. Qu'est-ce que vous disent les étudiants ?
Que globalement, ils ne peuvent pas se loger 3 repas par jour. Donc en général, ils favorisent souvent le repas du midi parce qu'ils ont à disposition une cafétéria et un restaurant universitaire. Et encore, parce que vous avez de plus en plus de cafétérias et de restaurants qui sont sous-dimensionnés, qui ne peuvent pas accueillir l'ensemble des étudiants. Et vous avez un étudiant sur deux qui saute plusieurs repas par semaine. Et on le voit aussi, certes, il y a cette question du nombre de repas par jour qui est très importante. Et on voit bien que les étudiants se privent de manger. Mais il y a la deuxième chose, qui est quelle qualité de repas ils mangent. C'est-à-dire que vous avez des produits frais qui coûtent de plus en plus cher, comme vous venez de le dire, viande, poisson, légumes, etc. Et donc, on a des étudiants qui tournent vers le fait de manger des pâtes et du riz, ce qui va hyper bon nutritivement. Et donc, vous avez une explosion du coup de la malnutrition chez les étudiants, des carences, etc., avec un vrai impact sur la santé. Et donc, les étudiants, en plus de ne pas assez manger, mangent relativement mal à cause du tarif des produits frais.
Et dans votre étude, vous pointez aussi la situation des étudiants étrangers qui auraient, eux, un reste à charge mensuel de 2 160 €. Pourquoi est-ce que eux sont particulièrement touchés ?
Ça, c'est très simple. C'est les politiques des derniers gouvernements Macron qu'on essaie de prendre pour cible les étudiants étrangers, leur faire payer la précarisation des universités et des services publics, avec une explosion des frais d'inscription pour l'ensemble des étudiants étrangers et la fin des exonérations pour le plan Bienvenue en France, qui, pour rappel, multiplie par 16 les frais d'inscription des étudiants étrangers. Et sur le dernier budget, l'État a décidé de supprimer les APL des étudiants étrangers, qui va priver à peu près 300 000 étudiants étrangers des APL et faire exploser le coût de la vie, puisque du coup, ils auront l'ensemble de leur loyer dans leur reste à charge et plus aucune aide pour l'aide au logement. Donc, on voit bien que il y a un vrai ciblage des étudiants étrangers qui est fait par le gouvernement, qui veut accueillir mieux, avec plus de moyens, mais qui en réalité ne fait que précariser et sélectionner socialement les étudiants étrangers qui viennent en France par justement une explosion de ces coûts.
Et est-ce que vous trouvez justement que la voix de ces étudiants étrangers est un peu moins portée ?
Il y a eu des grosses mobilisations, notamment à l'époque de Bienvenue en France en 2019, et il y a eu des appels à mobilisation, et il y en a une, pour rappel, le 15 septembre aussi sur la question de ces frais d'inscription différenciés. Mais aujourd'hui, le gouvernement refuse d'entendre la réalité de la situation des étudiants étrangers, qui est une situation de précarité, une situation particulièrement alarmante, où il y a du non-recours au droit, où le coût de la vie explose, où parfois, les étudiants sont dans des logements complètement insalubres, etc. Et le gouvernement, il refuse de voir cette réalité-là, parce que ça ne l'arrange pas vis-à-vis de ces politiques d'augmentation des frais d'inscription, de suppression des APL. Donc, le fait que le gouvernement n'écoute pas ces étudiants-là et continue tête baissée dans sa politique antisociale, ça, c'est une évidence.
Et les étudiants ultramarins supportent aussi des dépenses supplémentaires. Quelles aides spécifiques vous demandez pour eux ?
Alors nous, on demande l'augmentation du complément de bourse. Pour rappel, suite à une victoire de l'UNEF, les bourses des étudiants dans les droits en 2023 avaient été réévaluées, mais avec un complément de bourse, sauf qu'aujourd'hui, c'est très largement insuffisant. Nous, on demande un complément de bourse à hauteur de 200 € par mois pour les étudiants. Et évidemment, le souci majeur dans les Outre-mer, c'est le manque de structures et des structures qui ne sont pas adaptées à la réalité de la population étudiante. Donc évidemment, des investissements massifs pour construire des restaurants, des logements supplémentaires et pour avoir une vie et pour pallier à la différence du coût de la vie entre les DROM et l'Hexagone, quand même assez élevé. On parle de 408 € par an dans le cas des boursiers, 314 € par an pour les non-boursiers.
Dernière question, l'UNEF réclame une allocation d'autonomie de 1 288 € par mois. Qui pourrait en bénéficier et comment est-ce qu'elle serait financée surtout ?
Le concept de l'allocation d'autonomie, c'est justement qu'elle est universelle. Donc, elle est défamiliarisée, que l'ensemble des étudiants puissent la toucher, parce que nous, on estime que nous, les étudiants, sont à les impendices de leurs parents. Personne ne vit avec la carte bleue de papa-maman dans la poche lors de ses études. Et donc, cette allocation d'autonomie, elle doit être universelle. Donc,
universelle, étudiants boursiers, non boursiers.
Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on estime que les étudiants non boursiers sont tout aussi précaires. Et ça se voit dans les chiffres de la précarité, par exemple, sur les étudiants qui sautent des repas, etc. Ou les étudiants qui se salarient. On voit très bien que les étudiants non boursiers ne vivent pas avec la carte de papa et maman dans la poche et donc sont précaires. Et pour la financer, c'est très fin, ça ferait la création d'une 7e branche de la sécurité sociale. Et donc, on permettrait, pour reconnaître véritablement le statut de la jeunesse comme un moment de la vie, au même titre, par exemple, que la retraite. Et ça permettrait, du coup, via des cotisations, de financer cette allocation d'autonomie et d'investir réellement dans la jeunesse, de manière à avoir une jeunesse qui puisse s'émanciper via les études et ne pas dépendre des parents ou ne pas dépendre d'un salariat étudiant pour réussir et faire leurs études.
Merci Clara Privet, donc vous êtes trésorière de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France.
C'était Grand Angle.